Bienvenue sur 1, 2, 3 Cocktails, le podcast qui mélange tous les ingrédients pour booster ta crédibilité en ligne et faire briller ton site internet comme jamais. Je suis Christine, correctrice web, et je t'aide à avoir un site qui renvoie une image professionnelle. Ici, on mélange conseils d'expertes, astuces pratiques et discussions inspirantes pour que ton site devienne ta meilleure carte de visite. Toutes les deux semaines, je reçois une nouvelle experte qui ajoute un nouvel ingrédient au cocktail pour que tu aies tout ce qu'il te faut pour que ton site inspire confiance et incite tes visiteurs à passer à l'action. Mon invité te livre son savoir-faire et te donne des actions concrètes à mettre en place. Le shaker est prêt, installe-toi confortablement et embarque avec moi pour un nouvel ingrédient qui va booster la crédibilité de ton site. 1, 2, 3, c'est parti! Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 8 d'un des trois cocktails. Aujourd'hui, je reçois Myriam pour parler de rédaction web, mais pas que. On va aussi parler de SEO et de copywriting. Tout ça dans le but de t'aider à améliorer les textes de ton site web. Bonjour Myriam, comment vas-tu?
Bonjour Christine, je vais très bien et toi?
Ça va très bien, merci. Merci d'être venue sur le podcast pour parler de rédaction web. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît, nous dire qui tu es et ce que tu fais?
Bien sûr, donc je suis Myriam, comme tu l'as déjà dit. Je suis copywriter, donc experte en rédaction persuasive, en d'autres mots. Et on va avoir le temps d'ici les prochaines minutes de faire la différence entre tous ces termes.
Oui, effectivement. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer la différence qu'il y a entre rédaction web SEO et rédaction persuasive, qu'on appelle aussi copywriting?
Tout à fait. Mais la rédaction web, c'est très, très simple. Hein? C'est de la rédaction qui est destinée au web. Donc, quand on parle de site web ou qu'on parle d'articles de blog, c'est principalement ce à quoi on réfère avec la rédaction web. Quand on est en grande entreprise, à ce moment-là, on peut parler d'intranet aussi. Mais un intranet, ça reste un site web, mais à l'intérieur d'une même organisation. Donc, c'est la base. C'est comme ça que ça a commencé quand le web a pris son essor, où là, on est passé de la rédaction de la publicité traditionnelle dans les journaux, à la télé, à la radio. Donc, on a migré vers la rédaction web parce qu'il y a une différence entre les deux. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus une grande différence entre la rédaction web et la rédaction SEO. Parce que lorsqu'on est sur le web, bien, on veut maximiser le SEO, le référencement naturel. Donc, on veut que les amis, les robots de Google nous aiment. Ce qui fait, dans le fond, la rédaction SEO, c'est la rédaction qui fait, qui va nous aider à sortir dans les premiers résultats de recherche. Quand on cherche sur Google, par exemple. Donc, c'est une façon d'écrire, de réfléchir pour non, pas seulement écrire du contenu, du bon contenu, mais aussi pour qu'on se fasse trouver. Donc, c'est vraiment la petite différence qu'il y a entre les deux, mais aujourd'hui, je dirais que la rédaction web, on embarque le SEO dedans. À cela, on ajoute le copywriting, donc la rédaction persuasive. Qu'est-ce que ça mange en hiver? On réinvente pas la roue, ça demeure de la rédaction, mais à laquelle on a ajouté différentes notions. On a ajouté des notions de psychologie, de neurosciences, d'économie comportementale, de vente, de marketing. Donc, quand on brasse tout ça ensemble, ça nous donne de la rédaction persuasive, une rédaction qui va attirer, susciter l'attention des lecteurs pour commencer, ensuite connecter avec ces gens-là et les amener, l'étape ultime, les persuader à soit changer un comportement ou à acheter un produit, un service dont ils ont besoin, bien sûr. Donc, c'est la différence qu'on peut faire entre les trois types de rédaction.
Évidemment, les trois s'entremêlent finalement parce que sur un site web, on peut utiliser aussi bien écrire d'une façon persuasive et faire attention à son SEO en même temps.
Tout à fait. L'objectif, c'est de fusionner les deux, de fusionner une rédaction qui va mettre de l'avant le référencement naturel, le SEO, les mots-clés, donc les qu'on appelle aussi requêtes-types, donc les mots que monsieur, madame, tout le monde va chercher pour trouver la réponse à ses questions ou répondre à son besoin. Donc, on les veut, ces mots-là dans nos textes, mais jamais au détriment du contenu qu'on veut partager, du contenu persuasif. Et inversement, on a beau avoir le plus beau site web, la plus belle page de vente, bien écrite, persuasive, si on n'a pas touché au SEO, ben parfait, les gens qui vont tomber sur la page un peu par accident ou à cause par rapport à de la pub qu'on aurait pu faire, tant mieux. Mais si on cherche sur Google et qu'on ne trouve pas, ben on passe à côté de plein de ventes éventuelles parce que les gens ne nous trouvent pas. Alors, c'est important vraiment de trouver un équilibre entre le SEO et la persuasion pour avoir le meilleur des deux mondes.
Mm-hmm. Et pour renforcer sa crédibilité, pour envoyer une image professionnelle avec son site web, puisque c'est le thème du podcast, est-ce que tu dirais que c'est justement la rédaction persuasive qu'on devrait privilégier?
Les deux sont tout aussi importantes. Parce que si on a des très, très beaux textes qui sont à la fois authentiques, empathiques, on démontre qu'on comprend bien notre client cible, qu'on est persuasif, et qu'on a négligé le SEO, que les gens ne nous trouvent pas, qu'ils ne savent pas qu'on existe, et on passe totalement à côté de notre objectif. Donc, le côté visibilité, crédibilité, ben on en perd à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir les deux. Donc, on a besoin à la fois du SEO pour établir sa notoriété, pour avoir l'élément de découverte, visibilité, et ensuite, ben, on va aller appuyer cette visibilité-là avec la rédaction persuasive. Là, on va être capable de pousser pour, OK, on a eu de la visibilité, maintenant, on va établir notre crédibilité. Donc, c'est un amalgame des deux.
Oui, je comprends. Puis, je sais qu'on ne va pas écrire des textes pour un site web de la même façon qu'on va le faire pour une infolettre ou pour un courriel, par exemple. Alors, peux-tu nous dire comment on écrit des textes pour un site web?
OK, je vais y aller dans les grandes lignes parce que c'est tout un art, puis je vais faire des liens avec le SEO. Donc, ce qui est important, dans chacune des pages de notre site web, on va établir une requête cible. Donc, un mot-clé ou une suite de mots qui va former, on appelle un mot-clé de longue traîne, donc plusieurs mots. Donc, ces mots-là vont être les titres de chaque page. Donc, le H1, le titre 1, c'est ce mot-là. Ça, c'est la première des choses. Alors que lorsqu'on écrit une infolettre ou, par exemple, pour les réseaux sociaux ou un rapport, n'importe quel autre document, on n'a pas besoin d'avoir tout ça en tête. Donc, notre requête cible va être notre titre H1. Donc, on part de là. C'est de la base. Ensuite, ce qu'on veut sur la page d'accueil, c'est tout de suite avoir une punchline, quelque chose qui va retenir notre attention, qui va savoir, qui va mettre la table tout de suite. Donc, c'est important d'avoir, des titres qui vont respecter le requête cible pour maximiser notre SEO. Mais après ça, c'est là que le travail de persuasion embarque. Donc, pour attirer l'attention, expliquer rapidement ce que l'on fait. Et après ça, si on retourne au SEO, on a notre titre principal. T'sais, si on est à l'école, là, ça serait un point. Et ensuite, on a besoin de sous-titres. Donc, dans notre page, on a besoin de séparer notre texte en sections pour faciliter la lecture et le repérage de l'information. Alors, c'est là qu'apparaissent nos H2. Donc, 1.1, 1.2, 1.3. Donc, ça aussi, pour maximiser le SEO, notre requête cible, donc notre mot-clé, on doit le retrouver soit en tout ou en partie dans la majorité des H2 de notre page. Donc ça, c'est la façon de taper sur le clou et que les robots de Google disent « OK, c'est vraiment ça le sujet de la page, on va le mettre de l'avant. » Donc ça, c'est un autre élément à tenir compte. Les titres, sous-titres, bien séparés en sections. On n'est pas dans un travail universitaire très, très rectiligne, chronologique. On a besoin de coupures pour se repérer, pour repérer facilement l'information qu'on cherche. Autre chose, on essaie d'imager, hein? On veut pas mettre des images pour mettre des images, mais pour jazzer les pages, les rendre plus dynamiques. Des fois, juste des fois, bien souvent, les images valent mille mots. Donc, au lieu d'expliquer, puis que ce soit long, 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 parfois une image va tout expliquer ce qu'on veut dire. Alors, on maximise sur le visuel. Et lorsqu'on est un travailleur autonome ou qu'on est à la tête d'une micro-entreprise, bien souvent, c'est nous qui sommes l'image de l'entreprise. Donc, les gens, oui, vont acheter nos compétences, mais ils vont aussi acheter l'humain qu'on est, puis on a besoin de voir les gens. Donc, c'est pas une question d'égo démesuré pour se montrer sur notre site web. C'est comme ça que ça marche. C'est ça, faut être capable d'agrandir notre zone de confort puis d'accepter qu'il faut être vu pour que les gens aient un coup de cœur pour nous. Autre chose, des boutons d'appel à l'action, des call to action. On n'avait pas ça avant. Maintenant, la rédaction web pour un site web, on en a besoin partout, que ce soit pour voir nos services, en savoir plus, prendre rendez-vous, acheter. On veut que dans chaque page, il y ait au moins, ça c'est le gros, gros, gros minimum, un bouton d'appel à l'action pour amener les gens soit à aller chercher plus d'informations, à communiquer avec nous et l'étape ultime, acheter. Hein? Parce qu'on est des entrepreneurs, on est là pour vendre des produits ou pour des services. Alors, il ne faut pas avoir peur de mettre des boutons d'appel à l'action pour que ce soit facile pour les gens, le moins d'étapes possible.
Oui, c'est sûr que ça les aide à choisir le bon parcours en fait dans notre site web, à se repérer et puis aller directement à l'endroit où ils veulent.
Ouais. Oui, oui, oui.
Tu parlais des photos. C'est vrai que c'est toujours bizarre d'arriver sur un site web où il n'y a pas de photo de la personne qui vend les services, par exemple. On cherche, puis on ne trouve pas, ou on tombe sur une page à propos qui a juste du texte, il n'y a pas la photo. C'est vrai que ça nous laisse un petit peu sur notre faim.
Oui, moi, personnellement, j'ai besoin de voir les gens. Ce n'est pas une question d'apparence, mais je veux... C'est ça, une première approche. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des photos de nous, de l'équipe. Si on est dans le milieu, par exemple, le domaine de la santé, je pense aux massothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, peu importe, et j'aimerais voir l'environnement où je vais aller consulter ou me reposer. Donc, il n'y a pas juste les gens, il y a l'environnement aussi là, qu'on peut présenter. Là.
Oui, mais j'ai reçu une photographe justement sur le podcast pour parler des photos professionnelles sur son site web, puis elle a nommé comme toi de mettre des photos de l'environnement, de la personne en action ou du lieu physique aussi où on peut se rendre, des photos de l'équipe, etc. Ça rassure les personnes avant de te contacter.
Oui. C'est la première approche, la première étape est déjà faite au moment du contact. Alors, un bon point pour nous en partant.
Si je reviens au SEO, tu en as parlé, notamment de mettre le mot-clé dans le titre H1, d'en remettre dans les titres H2, pourquoi pas dans les textes. Est-ce qu'il y a autre chose en SEO qu'on peut mettre en place pour améliorer le SEO de notre site web? C'est sûr qu'on ne va pas aller dans les détails parce que c'est une expertise vraiment en tant que telle, mais oui. À part le mot-clé, le fameux mot-clé qu'on va essayer de placer un peu partout, est-ce qu'il y a autre chose?
Puis c'est pas mon expertise première. Je collabore avec des experts en SEO, alors j'ai appris par osmose, mais ma spécialité, c'est vraiment la rédaction persuasive. Mais autre élément, donc on a notre mot-clé. C'est important aussi de créer tout un champ sémantique qui appuie le mot-clé. Je donne un exemple. J'ai une grande amie et collaboratrice qui a une entreprise Elle fait le design d'écosystèmes web. Donc, elle offre plusieurs services parce qu'on est une équipe multidisciplinaire. Donc, du graphisme, la création de sites web, tout ce qui est création, automatisation d'infolettres, bref. Et dans son site, donc, il faut expliquer ce que c'est le design d'un écosystème web pour expliquer les différents services. Et c'est une gourmande, elle aime la bonne bouffe et tout. Donc, partout dans le site, il y a des analogies avec la cuisine. Donc, il faut faire attention pour pas mêler, encore une fois, les robots Google, pour qu'ils disent « elle fait des sites web ou c'est un restaurant. » Donc, on a réussi à bien doser et que le SEO soit performant, mais c'est tout un art. Donc, habituellement, on va créer tout un champ lexical autour de notre requête cible. Par exemple, si ma requête cible, c'est quel exemple je pourrais donner? Perte d'autonomie. Alors, à ce moment-là, dans le champ sémantique, on peut parler de parents vieillissants, on peut parler d'oubli, de chute, de tout ce qui entoure la perte d'autonomie d'un proche. On peut parler d'évaluation psychosociale. Donc, faut vraiment y aller avec le vocabulaire que les robots vont reconnaître pour dire « OK, on parle effectivement de perte d'autonomie dans ce cas-là. » Ça, c'est un élément. Si on va derrière le site, donc ce que les gens ne voient pas, à ce moment-là, il y a tout ce qu'on appelle les métadonnées, donc le méta-titre, le titre qui va apparaître justement là, en bleu lorsqu'on fait une recherche, la méta-description, donc les deux lignes qui apparaissent encore une fois dans les résultats de recherche, le nom des images. Donc ça, c'est tous des éléments qu'on ne voit pas nécessairement, mais dont on doit tenir compte par rapport là, au SEO. Donc, c'est quelques pistes quand même assez faciles à appliquer. Pour le reste, là, il y a comme, je pense que c'est une vingtaine, c'est pas une quarantaine de critères là qui pour améliorer le SEO de notre site, par exemple. Puis moi-même, je le fais pas, mais à coup le pas, là. Mais normalement, on devrait, une fois par semaine, apporter un changement à notre site web. Donc, l'étape ultime, c'est ajouter une page, donc créer un article de blog ou créer une nouvelle page tout simplement. Mais on s'entend que le commun des mortels, c'est plutôt rare que ça arrive. Mais apporter des changements, ça peut être seulement d'optimiser une page, d'aller modifier un titre, le contenu, changer une photo qui est rendue désuète. Donc, une fois par semaine, si on peut faire un changement ici et là, les robots aiment ça. Ça démontre que notre site est vivant, est actif, en évolution.
Mm-hmm. Mais ce que tu viens de nous donner, c'est quand même des choses assez simples à mettre en place. Oui. Juste de prendre le temps de le faire. Il n'y a rien de compliqué à mettre en place, là, comme d'aller mettre une méta-description, ces quelques mots.
Oui. Oui, puis il n'y a pas besoin d'être un as de l'informatique. N'importe qui a un site web qui a les connaissances de base là, pour apporter des modifications, on peut le faire soi-même. Là.
Parfait. Et là, je reviens à ton expertise qui est la rédaction persuasive. Est-ce qu'il y a des mots magiques qu'on peut parsemer dans notre site web pour séduire les visiteurs? Je pense par exemple au bouton d'appel à l'action. Est-ce qu'il y a des mots qu'on peut mettre dans ces boutons, par exemple?
Non, il n'y a pas de mot magique.
Ah, zut!
C'est si facile! Mais par contre, moi j'aime beaucoup parler de résonance. Le contenu magique, les mots magiques, c'est les mots qui résonnent auprès de notre clientèle cible. Les mots qui entraînent des réactions comme Myriam, elle me comprend vraiment. On dirait qu'elle s'adresse à moi. On dirait qu'elle est dans ma tête. Elle me comprend, puis c'est justement ce produit ou ce service-là dont j'ai besoin pour vrai. Alors ça, c'est comme le commentaire ultime qui fait qu'on est vraiment à point dans les mots qu'on choisit, notre façon de communiquer. Donc, c'est vraiment ça. Les mots magiques pour moi, ce sera pas les mêmes que pour toi parce qu'on n'a pas nécessairement, même si on a des métiers comme complémentaires, on n'a pas nécessairement la même clientèle cible. Ce sera pas la même chose qui va résonner. Et je sais que ça peut paraître un peu ésotérique, mais pour donner une idée plus concrète, il faut mettre des mots MOTS sur les mots MAUX de nos clients. Donc, démontrer qu'on les comprend vraiment et qu'on est là pour combler un besoin, les aider à régler un problème, un défi, un enjeu. Donc, si on écrit de cette façon-là, oui, on va être persuasif puis on va avoir utilisé les mots magiques dont nos clients ont besoin pour premièrement attirer leur attention et deuxièmement, les amener. Des fois, ça peut être long, mais à convertir, à acheter.
D'où l'importance de bien connaître son client idéal. On nous en parle beaucoup, de travailler oui. son client idéal, mais c'est important justement pour bien s'adresser à lui, qu'il se reconnaisse.
Ah, c'est la base de tout. Puis je reviens avec mon exemple de perte d'autonomie. Ma cliente, au début, son service s'appelait « Inaptitude ». Parce que c'est une travailleuse sociale et elle réalise des évaluations psychosociales pour justement évaluer les gens en perte d'autonomie. Mais inaptitude, c'est un mot qui ne résonne pas auprès de sa clientèle cible. C'est un mot qui fait peur parce que là, ça a changé de nom, mais avant, on parlait d'un mandat en cas d'inaptitude. Et quand on est rendu là, ça va pas bien, puis il y a des grosses émotions. Fait que c'est pas ça qu'on veut faire résonner auprès de la clientèle. On va parler de perte d'autonomie. Ah là, on parle, ah oui, je reconnais tel comportement chez mon père, ma mère, un proche, peu importe. Alors, le choix des mots, c'est ça qui est le plus important, puis qui va faire la différence.
Effectivement, c'est sûr que c'est de connaître son client idéal, connaître les mots qu'il utilise aussi. Oui. De réutiliser ses propres mots, c'est pas juste nous de trouver mais quel mot je peux utiliser, c'est en interrogeant notre clientèle cible qu'on connaît ces fameux mots qu'il ou elle utilise pour les réutiliser dans notre communication après.
Tout à fait, faut seulement écouter nos clients, écouter les membres de notre communauté sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on peut poser des questions, c'est tout simple. C'est quoi vos défis en lien avec? Et là, on met notre expertise. Ils vont l'écrire. Si moi, je suis, disons, coach familial et que je veux écrire sur les conflits dans la fratrie, ça parle à personne. Mais moi, je veux aider les parents à régler les chicanes de frères et sœurs. Ah ben là, on parle. soit poser des questions, soit vraiment écouter le client lorsqu'il nous parle de ses défis, de ses enjeux et de noter mot à mot. Puis là, ça va à l'inverse de ce qu'on nous a appris à l'école. Quand j'étais même au secondaire, au cégep, à l'université, tous les profs nous disaient « Prenez des notes, écrivez dans vos mots. » Mais là, c'est l'inverse. Je sais que c'est contre-intuitif parce qu'on s'est fait marteler ça pendant au moins 10 ans. Mais il faut noter mot à mot ce que nos clients nous répondent. Comme ça, quand on s'adresse à eux, ben ça va résonner parce qu'ils vont comprendre ce qu'on leur dit puis ils vont se sentir interpellés.
Oui. Alors, tu fais un lien avec ma prochaine question parce que là, tu viens de nous donner quelque chose qui peut être une action concrète qu'on peut faire dès maintenant. Même plusieurs, là, tu nous as nommé le champ sémantique. On peut prendre une feuille tout de suite, écrire le mot-clé central au milieu, puis essayer de trouver des mots en lien avec ce mot-là. Tu viens de nous nommer aussi de trouver les mots de sa clientèle cible. Mais je vais quand même te poser la question, c'est la question que je pose à tous mes invités sur le podcast. Est-ce que tu as une action concrète qu'on peut mettre en place dès maintenant pour améliorer la rédaction des textes sur notre site web?
Oui, je dirais que La majorité des gens qui viennent me voir pour optimiser leur site actuel, la première chose que je fais, c'est couper dans le gras. On enlève le superflu. Ça aussi, ça vient un peu de l'école où il fallait écrire un texte de 900 mots, de 2000 mots, de 5000 mots. Alors, on est habitué d'écrire des longs textes. Pour un site web, c'est un peu l'inverse. Je dis pas qu'il faut, parce que pour le SEO, il faut que les pages aient au moins 600 mots. Donc, il faut avoir du contenu à partager. Mais moi, je dis toujours, c'est quand tu n'as plus rien à dire, t'arrêtes là, ça finit là, c'est pas grave. Donc, on coupe ce qui est superflu, ce qui est pas essentiel immédiatement pour bien comprendre, pour connecter, pour avoir envie d'acheter. Le reste, ben, ça peut aller dans une foire aux questions, ça peut aller dans une rencontre découverte, ça peut aller dans un article de blog, mais on n'est pas obligé de tout retrouver l'information, que ce soit sur la page d'accueil, la page à propos ou les pages de service. Donc, c'est vraiment de couper ce qui est inutile.
Ce sera plus digeste pour les visiteurs.
Oui.
De
ah
lire
oui.
C'est plus court.
Oui, tout à fait. Puis, c'est ça que je me répète, mais le but, c'est pas de raccourcir le plus possible, mais c'est de passer notre message en ayant nombre, tu sais, en écrivant pas plus, mais pas moins non plus. C'est de trouver le sweet spot.
Très bien. Peux-tu nous dire, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi, sur ton travail?
Bien sûr. Donc, j'ai mon site web, myriamberubé.ca. Et pour les réseaux sociaux, je suis principalement active sur LinkedIn, un peu moins Facebook et Instagram. Donc, je dirais que LinkedIn, c'est le réseau que j'ai privilégié pour le moment.
OK. Moi, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Puis, dans la description, vous allez trouver aussi le lien pour vous inscrire à mon infolettre, pouvoir accéder à des conseils supplémentaires de Myriam sur la rédaction web. Et tu vas avoir aussi accès aux conseils supplémentaires de les invités que j'ai reçus sur le podcast. Merci beaucoup, Myriam, pour tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venue sur mon podcast. C'était vraiment super riche et intéressant. Je pense que je vais aller appliquer certains de tes conseils.
Ça a été un plaisir.
Merci. Effectivement, ça fait un plaisir. Puis je te dis à bientôt. Bye bye.
À très bientôt. Bye.